Or, le lendemain, on ne retrouva aucun des deux chiens. On ne retrouva pas non plus la crosse du fusil. Quant au canon, il était fiché en terre, tout droit. Il y avait dans un de ses tubes une fleur, une colchique d'automne cueillie à 50 pas de là. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi cette fleur? Pourquoi toutes ces complications dans le crime? Pourquoi ces actes inutiles? La raison se troublait devant de telles anomalies. Ce n'est qu'avec une sorte de crainte que l'on se risquait dans cette aventure équivoque. On avait l'impression d'une atmosphère lourde, étouffante, où il était impossible de respirer, qui voilait les yeux et qui déconcertait les plus clairvoyants. Le juge d'instruction tomba malade. Au bout de 4 jours, son remplaçant avoua que l'affaire lui semblait inextricable. On arrêta 2 cheminots qu'on relâcha sur le champ. On en poursuivit un 3e qu'on ne put rejoindre et contre lequel, d'ailleurs, on ne possédait aucune preuve. Bref, ce n'était que désordre, obscurité et contradiction. Un hasard conduisit à la solution, ou plutôt détermina un ensemble de circonstances qui conduisirent à la solution. Un simple hasard. Le rédacteur d'une grande feuille parisienne envoyée sur place résumait son article en ces termes. Par conséquent, je le répète, il faut attendre la collaboration du destin, sans quoi on perd son temps. Les éléments de vérité ne suffisent même pas à établir une hypothèse plausible. C'est la nuit épaisse, absolue, angoissante. Il n'y a rien à faire. Tous les Sherlock Holmes du monde n'y verraient que du feu, et Arsène Lupin lui-même, passez-moi l'expression, donnerait sa langue au chat. Or, le lendemain du jour où parut cet article, le journal publiait le télégramme ci-après. Et quelquefois donné ma langue au chat, mais jamais pour des bêtises. Le drame Saint-Nicolas est un mystère pour enfants en nourrice. Arsène Lupin. La dépêche fit du bruit. On se la rappelle et on se rappelle les polémiques que suscita aussitôt l'intervention du célèbre aventurier. Intervention réelle? On en doutait. Le journal lui-même se méfiait et prenait ses précautions. À titre de document, ajoutait-il, nous insérons ce télégramme, qui est certainement l'œuvre d'un farceur. Arsène Lupin, quoique passé maître en mystification, ne montrerait tout de même pas cette outrecuidance un peu puérile. Quelques jours s'écoulèrent. Chaque matin, la curiosité déçue devenait plus vive. Allait-on savoir? Enfin, le journal publia cette fameuse lettre si précise, si catégorique, où Arsène Lupin donnait le mot de l'énigme. La voici dans son intégralité. Monsieur le directeur, en me mettant au défi, vous me prenez par mon faible. Provoqué, je réponds. Et tout de suite, j'affirme à nouveau, le drame de Saint-Nicolas est un mystère pour enfants en nourrice. Je ne connais rien qui soit aussi naïf, et la preuve de cette simplicité sera justement la brièveté de ma démonstration. Elle tient cette démonstration en ces quelques mots. Quand un crime semble échapper à la mesure ordinaire des choses, quand il semble hors nature, stupide, il y a bien des chances pour qu'il ne puisse trouver son explication que dans des motifs extraordinaires, extra-naturels, extra-humains. Je dis qu'il y a bien des chances, car il faut toujours admettre la part de l'absurdité dans les événements les plus logiques et les plus vulgaires. Mais là, en vérité, comment ne pas voir ce qui est et ne pas faire entrer en ligne de compte l'absurdité et le disproportionné? Dès le début, le caractère très net d'anomalie me frappa. Les zigzags d'abord, l'allure maladroite de l'automobile, que l'on eût dit menée par un novice. On a parlé d'un ivrogne ou d'un fou. Supposition justifiée. Mais ni la folie ni l'ivresse ne peuvent provoquer l'exaspération de force nécessaire pour transporter, et surtout en si peu de temps, la pierre qui écrasa la tête de la malheureuse femme. Pour cela, il faut une puissance de muscles telle que je n'hésite pas à y voir un second signe de cette anomalie qui domine tout le drame. Et pourquoi le transport de cette pierre énorme, quand il suffisait d'un caillou pour achever la victime? Et comment, d'un autre côté, dans la culbute effroyable de la voiture, l'assassin ne fut-il pas tué ou tout au moins réduit à une immobilité temporaire? Comment a-t-il disparu? Et pourquoi, ayant disparu, est-il revenu sur le lieu de l'accident? Pourquoi avoir jeté là sa fourrure, puis un autre jour sa casquette, puis un autre jour ses lunettes? Anomalie, actes inutiles et stupides. Pourquoi, d'ailleurs, avoir emmené cette femme blessée, moribonde, sur ce siège d'automobile où tout le monde pouvait la voir? Pourquoi cela, au lieu de l'enfermer à l'intérieur, ou de la jeter morte en quelque coin, comme on avait jeté l'homme sous les ronces de la rivière? Anomalie. Stupidité. Tout est absurde dans l'aventure. Tout y dénote le balbutiement, l'incohérence, la gaucherie, la bêtise d'un enfant, ou plutôt d'un sauvage imbécile et forcené, d'une brute. Regardez la bouteille de cognac. Il y avait un tire-bouchon. On l'a retrouvé dans la poche de la fourrure. Le meurtrier s'en est-il servi? Oui, les traces de tire-bouchon sont visibles sur le cachet. Mais le geste était trop compliqué pour lui. Il a cassé le goulot avec une pierre. Et toujours des pierres. Notez ce détail. C'est la seule arme et le seul instrument qu'emploie cet individu. C'est son arme habituelle. C'est son instrument familier. Il tue l'homme avec une pierre, la femme avec une pierre. Et il débouche les bouteilles avec une pierre. Une brute, je le répète. Un sauvage forcené, détraqué. Rendu fou subitement. Par quoi? Eh, morbleu, justement par cette eau de vie qu'il a avalée d'un coup, tandis que le conducteur de l'auto et sa compagne déjeunaient dans la prairie. Il est sorti de la limousine, au fond de laquelle il voyageait, couvert d'une peau de bique et coiffé d'une casquette, et il a pris la bouteille, et il l'a brisée, et il a bu. Voilà toute l'histoire. Ayant bu, il est devenu fou furieux. Il a frappé au hasard, sans raison. Puis, saisi d'une peur instinctive, craignant l'inévitable châtiment, il a dissimulé le cadavre de l'homme. Puis, idiotement, il a enlevé la femme blessée et il s'est enfui. Il s'est enfui dans cette automobile qu'il ne savait pas manœuvrer, mais qui, pour lui, représentait le salut, l'impossibilité d'être rattrapé. Mais et l'argent, me direz-vous? Le portefeuille volé? Qui vous dit que c'est lui le voleur? Qui vous dit que ce n'est pas tel cheminot, tel paysan, attiré par l'odeur du cadavre? Soit, soit, objectez-vous encore. Mais on l'eût retrouvé, cette brute, puisqu'elle se cache aux environs même du tournant, et puisque, après tout, il faut qu'elle mange et qu'elle boive. Quoi? Vous ne devinez pas? Non, et cependant, vous êtes sûr qu'elle est toujours là? Certes, et la preuve, c'est le paysan qui a vu son ombre. Et c'est aussi, ajouterai-je, la disparition de ces deux chiens loups, des molosses, qu'elle a escamotés comme des caniches d'appartement. Et c'est aussi ce canon de fusil fiché en terre, stupidement, avec une fleur. Est-ce assez bête, cela? Et niais, et grotesque. Allons, vous n'y êtes pas. Aucun détail ne vous éclaire. Non. Alors le plus simple, voyez-vous, pour en finir et pour répondre à vos objections, c'est d'aller droit au but. Assez d'explications. Des actes. Donc, que ces messieurs de la police et de la gendarmerie veuillent bien y aller eux-mêmes à ce but. Qu'ils prennent des fusils. Qu'ils explorent la forêt dans un rayon de 200 ou 300 mètres, pas davantage. Mais que, au lieu d'explorer, la tête basse et les yeux fixés au sol, ils regardent en l'air. Oui, en l'air. Parmi les branches et les feuilles des chênes les plus hauts, et des êtres les plus inaccessibles. Et croyez-moi, ils le verront. Il est là. Il est là, désemparé, pitoyable, en quête de celui et de celle qu'il a tué. Et les cherchons, et les attendons, et n'osons s'éloigner, et ne comprenons pas. Pour moi, je regrette infiniment d'être retenu à Paris par de grosses occupations et la mise en train d'affaires très compliquées, car j'aurais eu plaisir à suivre jusqu'au bout cette assez curieuse aventure. Veuillez donc m'excuser auprès de mes bons amis de la justice et croire, monsieur le directeur, à l'assurance de mes sentiments distingués. Signé Arsène Lupin.